La roue du temps ramène toujours à nouveau les mêmes phases. L'été passa, l'hiver après lui, pour revenir et repasser encore. Le journal quotidien continuait, moi de même, et, dans le courant du troisième été, advint une nuit chaude. Une édition tardive et une attente énervée à propos de quelque chose qu'on devait télégraphier de l'autre côté du monde, le tout exactement comme il était arrivé auparavant. Quelques grands hommes étaient morts au cours des 2 années qui venaient de s'écouler. Les écrous des machines jouaient avec plus de bruit, et quelques arbres dans le jardin avaient 2 pieds de plus. C'était toute la différence. Je passais dans l'atelier. La même scène se reproduisit que j'ai déjà décrite. La tension nerveuse se faisait sentir plus intense que 2 ans auparavant, et la chaleur me pesait davantage. À 3 heures, je commandais « Imprimer !» et je m'en allais, qu'on se traîna vers ma chaise ce qu'il restait d'un homme. Il était courbé en cercle, la tête sombrée dans les épaules, et il passait ses pieds l'un par-dessus l'autre comme un ours. Je distinguais à peine s'il marchait ou s'il rampait, ce stropia loqueteux et géniant, qui m'appelait par mon nom en pleurant qu'il était de retour. « Pouvez-vous me donner à boire ?» pleurnichait-il. « Pour l'amour de Dieu, donnez-moi à boire !» Je retournai au bureau, précédant l'homme et ses gémissements de douleur. Je levai la lampe. « Vous ne me reconnaissez pas ? » souffla-t-il en se laissant tomber sur une chaise. Et il tourna son visage ravagé surmonté d'une toison grise vers la lumière. Je le fixai avec persistance. Une fois auparavant, j'avais vu ses sourcils qui se joignaient à la racine du nez en bande noire d'un pouce de largeur. Mais du diable, si j'aurais pu dire où. « Je ne vous connais pas, » dis-je en lui passant le whisky. « Que puis-je faire pour vous ?» Il avala une gorgée d'alcool pur et frissonna malgré l'étouffante chaleur. « Je suis revenu, » répétait-il. « Et j'ai été roi de Kafiristan, moi et Dravo, roi couronné tous deux. C'est dans ce bureau que nous avions tout décidé. Vous étiez assis là, vous nous avez donné des livres. Je suis pitché. » Pitché, taille à Ferran, Carnéane. Et vous êtes resté ici tout le temps depuis, mon Dieu. J'étais plus que médiocrement surpris et m'exprimai en conséquence. C'est vrai, dit Carnéane avec un ricanement sec, tout en berçant ses pieds empaquetés de chiffon. Vrai comme l'évangile, nous étions rois, avec une couronne sur la tête, moi et Dravo. Pauvre Dan, oh, pauvre Dan qui ne voulait jamais écouter, même les prières. Prenez du whisky, dis-je, et prenez votre temps. Dites-moi tout ce que vous pouvez vous rappeler depuis le commencement jusqu'à la fin. Vous avez passé la frontière sur vos chameaux, Dravo habillé en mulat fou, et vous comme son domestique. Vous rappelez-vous cela? Je ne suis pas fou, pas encore, mais ça m'arrivera bientôt. Bien sûr que je me souviens. Continuez à me regarder, sans quoi j'ai peur que mes mots s'en aillent par morceaux. Continuez à me regarder dans les yeux, et ne dites pas un mot. Je me penchai en avant, et le fixai en plein visage aussi ferme que je pus. Il laissa tomber sa main sur la table et je la saisis par le poignet. Elle était tordue comme une serre d'oiseau, et sur le dos, on voyait une cicatrice au contour déchiqueté. « Non, ne regardez pas là, regardez-moi » dit Carnéane. « Ça c'est après, mais pour l'amour de Dieu, ne me troublez pas. Nous sommes partis avec cette caravane, moi et Dravo, faisant toutes sortes de farces pour amuser les gens qui nous accompagnaient. Dravo nous faisait rire les soirs, à l'heure où tout le monde cuisait son dîner. Cuisait son dîner et... Qu'est-ce qu'ils faisaient donc après? Ils allumaient des petits feux, et les étincelles volaient dans la barbe de Dravo, et on riait tous à se faire mourir. Des petits charbons rouges, ça faisait, qui volaient dans la grosse barbe rouge de Dravo, si drôle. Ses yeux quittèrent les miens, il souriait d'un air simple. Vous êtes allé jusqu'à Jacques Dalac, avec cette caravane, déjà tout hasard, après avoir allumé ses feux? À Jacques Dalac, vous a-t-on détourné de pénétrer en Kafiristan? Non, ni l'un ni l'autre. Qu'est-ce que vous racontez? Nous avons bifurqué avant Jacques Dalac, en entendant dire que les routes étaient bonnes. Pas assez bonnes pour nos 2 chameaux, le mien et celui de Dravo. En quittant la caravane, Dravo ôta tous ses habits et les miens aussi, et dit qu'il fallait faire les païens parce que les kafirs ne permettent pas aux mahométans de leur adresser la parole. Alors on se déguisa, moitié l'un, moitié l'autre, et une tête comme celle de Daniel Dravo, jamais je n'en ai vu de pareil, ni n'en reverrai jamais. Il brûla sa barbe à moitié, se pendit une peau de mouton sur l'épaule et se rasa la tête en petits dessins. Il me rasa la mienne aussi et me fit mettre des frusques de chien-lit pour me donner l'air d'un païen. Tout ça se passait dans un pays excessivement montagneux et nos chameaux ne pouvaient plus avancer à cause des montagnes. C'est des montagnes très hautes et toutes noires, et au retour, je les voyais se battre comme des chèvres sauvages. Il y a des tas de chèvres en Kafiristan. Et ces montagnes, elles ne se tiennent jamais tranquilles, tout comme des chèvres. Toujours à se battre et à vous empêcher de dormir la nuit. Prenez d'autres whisky, dis-je très lentement. Qu'avez-vous fait, Daniel Dravo et vous, lorsque les chameaux ne purent plus avancer à cause des mauvaises routes qui menaient en Kafiristan? Ce que nous avons fait? Qui ça? Il y avait un individu nommé Pichit Taliaferro Carnehan avec Dravo. Faut-il vous parler de lui? Il est mort là-bas, dans la neige. Vlan! Du haut du pont tomba ce vieux Pichit. Et il tournait et se tortillait en l'air comme un moulin à un penny pour vendre à la mire. Non, ça coûtait un penny et demi les trois, ces moulins. Ou je me trompe et j'ai bien du chagrin. Et alors les chameaux, plus bon à rien. Et Pichit dit à Dravo. Pour l'amour de Dieu, tirons-nous d'ici avant qu'on nous coupe la tête. Et là-dessus, ils tuèrent les chameaux dans la montagne, car ils n'avaient rien que je sache à manger. Mais d'abord, ils enlevèrent les caisses de fusils et de cartouches. Puis voilà deux hommes qui s'amènent, conduisant quatre mules. Dravo saute debout et se met à danser devant eux en chantant « Vends-moi tes quatre mules !» Le premier homme dit « Si tu es assez riche pour payer, tu es assez riche pour voler. » Et avant qu'il porte seulement la main à son couteau, Dravo lui casse le cou en travers de son genou et l'autre se sauve. De sorte que Carnehan charge les mules avec les fusils qu'on avait descendus des chameaux, et tous deux, nous piquons de l'avant dans ce pays du froid de chien, où il n'y a jamais de roue plus large que le dos de la main. Il s'arrêta un moment, tandis que je lui demandais s'il se rappelait la nature du pays par lequel il avait cheminé. Je vous dis tout, aussi droit que je peux, mais la tête n'est pas aussi bonne que tout ça. Ils ont enfoncé des clous dedans pour que j'entende mieux comment Dravo mourut. Le pays était montagneux. Les mules rétives et les habitants dispersés et solitaires. On allait montant, descendant, et l'autre individu, Carnehan, suppliait Dravo de ne pas chanter ni siffler si fort, crainte de détacher les terribles avalanches. Mais Dravo disait que si un roi ne pouvait pas chanter, ça ne valait pas la peine d'être roi, et ne fit attention à rien pendant 10 jours de glace. Nous arrivâmes à une grande vallée unie, au milieu des montagnes, et les mules étaient à moitié mortes. Et on les tua, n'ayant rien que je sache à leur donner, ni à manger nous-mêmes. Puis, nous nous assîmes sur les caisses et nous jouions à pair et impair avec les cartouches qui avaient roulé à terre. Tout à coup, 10 hommes, avec des arcs et des flèches, descendent la vallée en courant et en faisant la chasse à 20 hommes, armés d'eux-mêmes, et le potin était énorme. Ils étaient blonds, plus blonds que vous et moi, les cheveux jaunes et très bien bâtis. Dravo dit en déballant les fusils, « Voilà le commencement de la besogne, nous prenons parti pour les 10 ». Là-dessus, il tire 2 coups sur les 20 hommes et en dégringole 1 à 200 mètres du haut du rocher où il se tenait. Les autres commencèrent à l'étaler. Mais Carnehan et Dravo s'assoient sur les caisses et se mettent à les poivrer, à toute distance, du haut en bas de la vallée. Après, nous nous dirigeons vers les 10 hommes qui avaient traversé aussi la neige en courant, et ils nous décochent une coquine de petites flèches. Dravo tire en l'air et ils tombent tous à plat ventre. Alors il marche dessus, en leur donnant du talon de botte. Et après, les relève et distribue des poignées de main à la ronde pour s'en faire des amis. Il les appelle et leur donne les caisses à porter avec des grands gestes, tout comme s'il était roi déjà. Il les mène avec ses caisses de l'autre côté de la vallée, en haut d'une colline avec un bois de pin au sommet, où il y avait une demi-douzaine de grandes idoles de pierre. Dravo marche à la plus grande, un gars qu'ils appellent un bras, pose un fusil et une cartouche à ses pieds, lui frotte le nez respectueusement contre le sien, lui passe la main sur la tête et lui fait des salamalecs. Il se retourne vers les hommes, secoue la tête et dit « Ça va bien, j'en suis aussi, et tous ces vieux casse-noisettes sont mes copains. » Alors, il ouvre la bouche en montrant son gosier du doigt, et quand le premier homme lui apporte à manger, il dit « Non. » Et quand le deuxième homme lui apporte à manger, il dit « Non. » Mais quand un des vieux prêtres et le chef du village lui apportent à manger, il dit « Oui, très fier, et mange sans se presser. » Voilà comme nous sommes arrivés à notre premier village, sans difficulté, tout comme si nous tombions du ciel. Oui, mais nous sommes tombés dans de ces damnés ponts de corde, et on ne peut pas s'attendre à voir un homme vivre beaucoup après ça. Prenez notre whisky et continuez, dis-je. Ça, c'était votre premier village. Comment êtes-vous devenu roi? Moi, je n'ai pas été roi. C'est Dravo qui était roi, et ça faisait un beau gars, courant dedans en tête et le reste. Lui et l'autre individu demeurèrent dans ce village, et tous les matins, Dravo s'asseyait à côté du vieil Amra, tandis que les gens venaient lui faire pouya. C'était l'ordre de bravo. Puis, une troupe d'hommes entre dans la vallée et Carnéane avec Dravo les descendent à coups de fusil avant qu'ils sachent où ils en sont. Montent sur l'autre versant et trouvent un autre visage, pareil au premier, où tout le monde se jette à plat ventre. Et Dravo dit « Voyons, qu'est-ce qui ne va pas entre nos deux villages ?» Les gens alors lui montrent une femme blanche comme vous et moi qu'on avait enlevée, et Dravo la ramène au premier village et compte les morts, 8 qu'il y en avait. Pour chaque mort, Dravo verse un peu de lait par terre, remue le bras comme un moulinet et « C'est très bien » qu'il dit. Ensuite, lui et Carnéane prennent le grand chef de chaque village, chacun sous le bras, descendent avec dans la vallée et leur montrent à tirer une ligne avec un fer de lance tout le long de la vallée, en leur donnant à chacun une motte d'herbe prise des deux côtés de la ligne. Alors tous les gens descendent, gueulant comme le diable et son train, et Dravo dit « Allez bêcher la terre, croître et multiplier !» Ce qu'ils firent, quoiqu'ils ne comprenaient pas. Alors nous demandons les noms des choses dans leur baragouin, l'eau, le pain, le feu, les idoles et le reste. Et Dravo amène le prêtre de chaque village devant l'idole, et lui dit de rester là pour juger les gens, et que si ça ne marchait pas, on lui ficherait un coup de fusil. La semaine après, ils étaient tous à retourner la terre dans la vallée, tranquilles comme des abeilles et plus jolies à voir. Les prêtres écoutaient les réclamations et rapportaient à Dravo, par geste, de quoi il s'agissait. « Voilà que ça commence, dit Dravo, ils nous prennent pour des dieux. » Lui et Carnéane choisissent 20 gaillards solides et leur apprennent à charger un fusil, à doubler par le flanc, à marcher aligné. Ça leur faisait plaisir et ils envoyaient vite la farce. Puis, il prend sa pipe et sa blague, laisse un homme dans un village, un homme dans l'autre, et nous partons. Histoire de voir ce qu'il y avait à faire dans la prochaine vallée. C'était tout rocher par là, avec un petit village. Carnéane dit « Envoyons les planter dans l'autre vallée. » Il les y emmène comme il dit et leur donne de la terre qui n'appartenait à personne avant. Ils n'étaient pas riches, mais on leur fit cadeau d'un chevreau avant de les faire entrer dans le nouveau royaume. C'était pour frapper les autres. Ils s'installèrent tous tranquillement et Carnéane retourna trouver Dravo qui avait poussé dans une autre vallée. Rien que de la neige, de la glace et des montagnes énormes. Il n'y avait personne par là, et l'armée se prend de peur. De sorte que Dravo en tue un, et continue de l'avant, jusqu'à ce qu'il trouve quelques habitants dans un village, auquel l'armée fit comprendre que, s'ils ne veulent pas être massacrés, ils feront mieux de ne pas tirer leurs petits fusils à pierre, car ils avaient des fusils à pierre. On se met bien avec le prêtre, et je reste là, tout seul, avec deux de l'armée, à apprendre l'exercice aux hommes. Et alors arrive un grand chef du tonnerre de Dieu, à travers la neige, avec des tambours et des cornes qui faisaient du train, rapport qu'il avait entendu parler d'un nouveau dieu qui se baladait par là. Carnéane vise dans le tas un demi-mille à travers la neige et en dégringolant. Alors, il envoie dire au chef que, s'il ne veut pas se faire tuer, il faut qu'il vienne me donner une poignée de main et laisse les armes derrière. Le chef arrive le premier, tout seul. Carnéane lui serre la main et fait le moulinet avec ses bras, comme Dravo. Et le chef n'était pas à moitié étonné et me tâtait les sourcils. Puis Carnéane marche tout seul au chef et lui demande par signe s'il a un ennemi qu'il ait. « J'en ai un, dit le chef. » En entendant ça, Carnéane lui rafle le dessus du panier de ses hommes et leur fait montrer la manœuvre par les deux de l'armée. Et au bout de 2 semaines, les hommes se débrouillent à peu près comme des volunteers. Alors, il marche avec le chef vers un grand coquin de plateau sur le haut d'une montagne. Et les hommes du chef donnent l'assaut à un village et le prennent avec l'aide de nos 3 martinis qui tapaient dans le tas. Ça fait que nous prîmes ce village-là aussi, et je donne au chef un morceau de drap de ma veste en disant « Occupe jusqu'à mon retour !» à la mode biblique. Histoire de l'y faire penser, lorsque l'armée et moi nous étions éloignés de 1800 mètres, je plante une balle dans la neige à 2 pas de lui, et tous les gens tombent à plat ventre. Puis, j'envoyais une lettre à Dravo. Du diable si je savais où le prendre, sur terre ou sur mer. Au risque de rompre le fil des idées de la locumène que j'avais devant moi, j'interrogeai. Comment pouvait-on écrire une lettre là-haut, si loin? La lettre? Oh, la lettre! Continuez à me regarder entre les yeux, s'il vous plaît. C'était une lettre en nœud de ficelle. Un mendiant aveugle nous avait montré le truc, autrefois en Pendjab. Je me souviens qu'une fois, était venu au bureau un aveugle porteur d'une baguette noueuse et d'une ficelle qu'il enroulait à la baguette, selon quelques chiffres de son invention. Après un laps de plusieurs heures ou de plusieurs journées, il pouvait répéter la phrase assez entortillée. Il avait réduit l'alphabet à 11 sons élémentaires et il essaya de m'enseigner sa méthode, mais sans succès. J'envoyai la lettre à Dravo, dit Carnehan, pour lui dire de revenir, parce que ce royaume devenait trop grand pour que je le manie tout seul. Puis, je m'en allai du côté de la première vallée, afin de voir comment les prêtres s'en tiraient. On appelait le village que nous venions de prendre, d'accord avec le chef, Bashkai, et le premier que nous avions pris, Erheb. Les prêtres d'Erheb se débrouillaient bien, mais ils avaient un tas de disputes à propos de terres à me soumettre, et des hommes d'un autre village avaient tiré des flèches sur le leur la nuit. Je sortis à la recherche de ce village et lui envoyai 5 balles à 1000 mètres. Ça faisait le compte de cartouches que je me souciais de brûler. Ensuite, je me mis à attendre Dravo, absent depuis 2 ou 3 mois, et je fis tenir mon peuple tranquille.